Dialogue de Platon, Thé et tête ou de la science. Premiers interlocuteurs, Euclide, Terpsion, tous deux de Mégare. Seconds interlocuteurs, Socrate, Théodore de Cyrène, Thé et tête. Partie 1. Euclide. Arrives-tu à l'instant de la campagne, Terpsion, ou y a-t-il longtemps que tu es ici ? Terpsion. Il y a déjà quelque temps, je t'ai même cherché sur la place et m'étonnais de ne pouvoir te trouver. Euclide. Je n'étais pas dans la ville. Terpsion. Et où donc étais-tu ? Euclide. Comme je descendais vers le port, j'ai rencontré Thé et tête, que l'on rapportait du camp devant Corinthe à Athènes. Terpsion. Vivant ou mort ? Euclide. Vivant, mais à grand-peine. Il souffre beaucoup de plusieurs blessures, mais ce qui le tourmente le plus, c'est la maladie qui s'est répandue dans l'armée. Terpsion. La dysenterie ? Euclide. Oui. Terpsion. Quel homme, tu m'apprends que nous sommes menacés de perdre ? Euclide. Oui, Terpsion. Un bien excellent homme. Tout à l'heure encore, j'entendais faire le plus bel éloge de sa conduite le jour de la bataille. Terpsion. Je n'en suis point surpris, et il y aurait plutôt de quoi s'étonner qu'il ne se fût pas montré comme il l'a fait. Mais pourquoi ne s'est-il pas arrêté ici, à Mégare ? Euclide. Il lui tardait d'arriver chez lui. Je l'ai bien prié de rester, mais il n'a pas voulu. Je l'ai donc accompagné, et en m'en revenant, je me rappelais avec admiration la vérité des prophéties de Socrate sur bien des choses, et particulièrement sur le compte de Thé et tête. C'était, je crois, peu de temps avant sa mort qu'il connut Thé et tête, jeune encore et dans la fleur de l'âge, et que, s'étant entretenu avec lui, il fut charmé de son heureux naturel. Plus tard, comme j'étais à Athènes, Socrate me raconta la conversation, très remarquable en vérité, qu'ils eurent ensemble. Et il ajouta qu'infailliblement, ce jeune homme se distinguerait un jour, s'il arrivait à l'âge mûr. Terpsion. L'événement semble prouver qu'il disait vrai. Pourrais-tu bien, Euclide, me faire le récit de cette conversation ? Euclide. Ah non, par Jupiter ! Pas de vive voix, du moins. Mais dès lors, aussitôt que je fus arrivé chez moi, je m'empressai de recueillir par écrit mes souvenirs, et je les rédigeai ensuite à loisir, à mesure que la mémoire m'en revenait. Et chaque fois que j'allais à Athènes, je me faisais redire par Socrate les choses qui m'étaient échappées. Puis, revenu ici, je les rétablissais avec ordre, si bien que j'ai toute cette conversation à peu près écrite. Terpsion. Fort bien. Je t'en avais déjà entendu parler et voulais toujours te prier de me la montrer. Mais je n'en ai rien fait jusqu'ici. Qui nous empêche, à présent, de nous en occuper ? D'ailleurs, comme j'arrive de la campagne, j'ai grand besoin de repos. Euclide. Et moi, j'ai accompagné Thé et tête jusqu'à l'Érinéon et ne serais pas fâché non plus de me reposer. Allons donc, et tandis que nous nous délasserons, l'esclave lira. Terpsion. Tu as raison. Euclide. Voici le livre, Terpsion. Quant au dialogue, je l'ai arrangé, non pas comme si Socrate me racontait à moi-même ce qui s'est dit, ainsi qu'il l'a fait, mais je suppose qu'il s'adresse réellement à ceux avec qui l'entretien s'est passé. Et c'était, m'a-t-il dit, Théodore le géomètre et Thé et tête. J'ai voulu éviter par là dans mon récit l'embarras de ces phrases qui interrompent sans cesse le discours, comme « je lui dis » ou « là-dessus je répondis » si c'est Socrate qui parle, ou si c'est l'autre, il en convainc ou il le nia. Pour retrancher tout cela, j'introduis Socrate parlant directement avec les autres. Terpsion. Cela me paraît fort raisonnable, Euclide. Euclide. Prends donc ce livre, esclave, et lis-nous